16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui se sont aimés et qui se sont écrits, parfois en secret. Après Virginia Woolf et Vita Sackville-West, vous allez, Mathieu, nous faire part d'une lettre bien plus récente, datée de 1995 et rédigée par un certain Tupac Shakur à l'attention d'une certaine Madonna.
Oui, sulfureuse histoire cet après-midi, Stéphane, montée dans ma 205 GTI Jantalu, je vous ramène en 1995. Oh, 1995, d'ailleurs, je n'avais pas encore de 205 GTI puisque je n'avais pas encore le permis. J'avais 13 ans. David aussi, et notre quotidien, c'était des défis intelligents.
Qui c'est qui peut avaler le plus de Tabasco ?
Nous prendre des râteaux par des meufs trop branchées pour nous, dans des jeans trop grands pour nous, revers incompréhensibles, alors que pourtant nous sniffions du tang à la récré, ce qui était, pensions-nous alors, le summum de la coolitude. 1995, période charnière dans l'histoire du hip-hop, puisqu'on ne savait pas alors qui, d'Alliance Ethnique ou de Tupac, passerait à la postérité. Il se trouve que ce fut Tupac. C'est surtout le symbole d'une époque du rap américain, celle de la rivalité East Coast-West Coast, côte Est, côte Ouest. Les rappeurs de New York ne pouvant pas piffrer ceux de Los Angeles, c'était très violent, hein, les insultes fusaient.
Petit foutriquet, vieux serpent à lunettes.
Oui, parfois même, comme on avait affaire à d'authentiques bad boys, on se tirait carrément dessus. C'était très violent. Et de tous les rappeurs de l'époque, l'un des plus rebelles à toute forme d'autorité, le plus gangsta, si vous voulez, c'était Tupac. Il a 20 ans en 1990, un âge où on aime faire des bêtises, tester les limites. Même vous, Stéphane, comme vous nous l'aviez raconté une fois.
Dans mon enfance, il y avait... On tirait le cordon. Donc elle ouvrait la porte, quelle que soit l'heure où on rentrait. Bon, ça posait des problèmes parce que le lendemain, elle disait à mes parents, Stéphane est rentré à 2h.
Qu'est-ce que vous faisiez jusqu'à 2h du matin dehors, Stéphane?
J'allais boire des coups. Vitellement.
Sauf que Tupac, lui, c'était pas des vitellement qu'il allait boire la nuit. Et non. Pendant que vous tiriez le cordon du concierge, whatever that means, il participait à des braquages, des fusillades entre bandes rivales. Il découvrait le doigté délicat des policiers américains. En 94, quand il écrit à Madonna, il purge d'ailleurs une peine de 4 ans de prison. Car oui, Tupac et Madonna ont donc eu une liaison. À votre petit sourire, Stéphane, je devine ce que vous vous dites. Avec qui Madonna n'a-t-elle pas eu de liaison?
Elle voit passer plein de monde entre ses cuisses.
Oui,
vois.
On a compris, Stéphane, inutile de l'accabler. Après tout, elle fait bien ce qu'elle veut. La liste de ses amants stars ne nous regarde pas.
Et elle a bien connu André Dassari.
Bien. En 1993, probablement un peu lassée d'André Dassari, d'autant que Pfizer n'a pas encore inventé le Viagra, Madonna se tourne vers ce jeune rappeur fougueux, perpétuellement torse nu, qui cartonne, Tupac Shakur. Elle fait sa connaissance lors des Soul Train Music Awards de 93. Année inoubliable marquée par la sortie de Jurassic Park, la victoire de l'OM en Ligue des Champions, la commercialisation de la Citroën Xantia et du premier aspirateur Dyson sans sac dont je ne me souviens pas si je vous ai dit qu'il était super. Ah si, je vous l'ai dit puisque j'en ai reçu un gratuit derrière. Bref, entre Madonna et Tupac, le coup de foudre est immédiat. On ne perd pas de temps en first date, second date, tout ça, on est moderne, ça va très vite. Madonna lui dit d'emblée:
c'est un pistolet dans votre poche ou vous êtes juste content de me voir?
Avec la voix de Clémentine Portier-Kaltenbach, qui ne déstabilise pas pour autant Tupac, qui la pécho le soir même. Alors, leur relation est peu documentée jusqu'en 2017, où une lettre manuscrite de Tupac, destinée à Madonna, qu'il a rédigée en prison en 95, est mise aux enchères. Il y explique pourquoi il a mis fin à leur relation. Madonna tente de s'opposer à ce que cette lettre soit rendue publique, et cette lettre, vous vous en doutez, je me la suis procurée. Avant de vous lire cette lettre, un mot encore de Tupac. J'ai choisi volontairement de vous épargner une biographie de Madonna que vous connaissez tous. Je me suis dit que si je me lançais dans la bio de Madonna, vous alliez sombrer dans un ennui proche de celui qui envahit Stéphane lorsque, hors antenne, David commence à lui raconter sa vie.
J'ai travaillé, moi, pendant 5 ans dans une entreprise qui s'appelle l'agence Kappa.
Ah ouais ? C'est bien.
Donc, juste un mot de Tupac qui, aux surprises, ne s'appelle pas vraiment Tupac, mais c'est moins glamour, Jean-Noël Couillard.
Mais non.
Si, c'est ce qu'affirment en tout cas les fans de Notorious Big, l'ennemi juré de Tupac. Les autres estiment qu'il s'appelait plutôt Les Saint Parish Crooks, qui voit le jour en 1970 à Harlem. Et si je vous ai déjà parlé de son côté bandit, j'ai omis de vous parler de son talent. Talent qui s'incarne dans un chiffre assez stratosphérique: 75 millions d'albums vendus. Fait tout simplement partie, Stéphane, des artistes les plus vendus de tous les temps, devant votre ami Nana Mouskouri. Son décès brutal, puisqu'il est assassiné à Las Vegas le 7 septembre 1996, un meurtre d'ailleurs jamais élucidé, ajoutera encore à sa légende. Une légende liée au caractère militant de Tupac, que sa mère surnomma d'ailleurs ainsi, en hommage à un révolutionnaire péruvien tué par les Espagnols. Car chez les Crooks, on est hyper politisé. Papa et maman militent chez les Black Panthers, et toute l'inspiration de Tupac vient de là, la volonté de mettre en lumière les injustices infligées aux Afro-Américains aux États-Unis. Les Saints devient donc Tupac, avant ensuite d'adopter le nom de famille du père de sa sœur Sekia, un autre autre Black Panther qui s'appelait Mutulu Shakur.
Je ne comprends rien de quoi vous dites.
Faites comme moi, faites semblant, Stéphane. Essayez d'être un peu street. Ce qu'il faut retenir, c'est que le rap a sauvé, temporairement en tout cas, ce jeune homme à fleur de peau. Un jeune homme à la gâchette facile, c'est vrai, aux fréquentations peu recommandables, mais avec un cœur sensible et une plume alerte. Un dingue de poésie qui, un jour, dans un parc public, rencontre la femme qui va changer sa vie en acceptant de devenir sa manager. Leila Steinberg ne connaît personne dans l'industrie musicale, pourtant, elle va décrocher à ce gamin de 17 ans à peine un rendez-vous avec un producteur en vue de l'époque. À partir de là, Tupac enchaînera album à succès et séjour en prison. Vous connaissez tous ces tubes, Stéphane ?
If you hear me, keep your head up, sans oublier l'incontournable, Strictly for my niggas.
Strictly for my niggas, effectivement, c'est le meilleur. Alors, votre street credibility vient de faire un bond, Stéphane. On mentionnera aussi, évidemment, car on l'a tous écouté au volant d'une 307 décapotable sur une route de la région PACA, en s'imaginant être à Venice Beach, California Love. On est en 96, son plus grand tube. Hélas, il meurt assassiné quelques mois plus tard. Une vie de gangsta jusqu'au bout, puisqu'après avoir été incinéré, Tupac sera fumé par ses amis, les membres du groupe Outlaws, sous la forme d'un gros pétard où de la marijuana avait été mélangée à ses cendres.
C'est beau, non ?
C'est magnifique. Belle idée, ouais, belle de idée. Nature à égayer un moment généralement pas très fun qu'est la crémation. Je sais par son notaire qu'Olivier Poulce a demandé à être fumé lui aussi, mais au charbon de bois. Les proches pourront ensuite le déguster avec une sauce béarnaise. Ainsi, il restera toujours un peu de lui en nous. Avant de finir en spliff à tout juste 25 ans, Tupac a donc vécu une vie assez mouvementée, sentimentalement aussi. Des top modèles par ici, Whitney Houston par là, quelques gangbangs pour garder la forme, c'est bien normal. Et au milieu de tout ça, Madonna. Leur idylle est facile à dater. 31 mars 94, en effet, l'attitude de Madonna dans un talk show choque l'Amérique. Déclaration fantasque, pitrerie, emploi du juron fuck à 14 reprises. Les fans sont choqués. Plusieurs années plus tard, dans un autre talk show, elle explique « Eh bien, à l'époque, je sortais avec Tupac et le truc, c'est qu'il m'a mis en colère contre la vie en général. Donc, quand je suis allé à l'émission, je me sentais très gangsta. » Et voilà, c'est pas elle qui avait pété les plombs, c'est la faute à Jean-Noël Couillard. Et la période gangsta de Madonna a duré à peu près un an et demi jusqu'à ce que Tupac soit incarcéré et qu'il lui adresse, depuis sa cellule, cette bouleversante missive. J'ai d'abord pensé à demander à Stéphane de nous la traduire, puis je me suis souvenu que l'anglais n'était pas son fort.
Ce titre fait référence directement à une chanson, c'est Good Morning Hurtet. C'est Bonjour...
Mal de tête.
Douleur.
Non,
douleur.
Ah oui, oui, pardon. Oui.
Le heartache.
Donc c'est Bibi hein, qui va s'écoller. Voici ce qu'écrivait Tupac à Madonna le 15 février 95, soit un an avant sa mort. Tout d'abord, je dois m'excuser parce que je n'ai pas été le genre d'ami que je sais être capable d'être. Pas parce que je suis méchant ou parce que tu n'en valais pas la peine, mais les effets du racisme rendent difficile pour un jeune homme noir de montrer son affection envers une femme blanche plus âgée. On peut jouer à classe pas classe. Hein. Peux-tu le comprendre ? Pour toi, être vu avec un homme noir n'aurait d'aucune manière compromis ta carrière. Ça aurait même pu te montrer plus ouverte et excitante. Mais pour moi, j'avais l'impression que je laissais tomber la moitié des gens qui ont fait de moi ce que je suis. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Au fait, j'étais à fond sur toi, mais j'ai eu peur. Je ne voulais pas être un autre jouet ou juste un autre gars. Et puis, je suis tombé sur une interview où tu disais que tu en avais marre de réhabiliter tous les rappeurs et joueurs de basket. Ces mots m'ont blessé car j'ignorais totalement que tu avais été avec d'autres rappeurs. Mais tu as été tellement gentil, même au beau milieu de ma folie. Je t'offre à nouveau mon amitié, cette fois bien plus forte et ciblée. Si tu es encore intéressé, j'aimerais en discuter avec toi, mais certaines phrases ne pouvaient attendre. Je me sentais obligé de t'écrire juste au cas où quelque chose devait arriver. Ton couillard. Pardon, toujours Tupac. Cette lettre, nous n'aurions jamais dû la dire, car Madonna ne l'a jamais publiée. C'est son ex-amie et assistante, Darlene Lutz, probablement la première femme d'Alex Lutz, je n'ai pas enquêté si loin, qui lui a odieusement shippé, puis mise aux enchères en 2017. Mise à prix de la lettre, 100 000 $.
Ah ouais.
Heureusement, mais non, il y a une justice, personne ne s'est porté acquéreur à ce prix. Il faut dire qu'un scan de cette lettre est disponible sur Internet, une bonne imprimante couleur et le tour est joué. Pour ma part, ému par cette histoire de lettre d'amour qui ressort des années après, je lance un appel solennel à une certaine Fanny. Fanny, tu es probablement belge, probablement ménopausée aussi aujourd'hui, et si mes sources sont bonnes, et elles le sont souvent, on l'a vu avec Constance, tu dois être en possession d'un émouvant poème qu'avait composé pour toi un garçon joufflu, au lacet constamment défait, un garçon qui t'aimait presque aussi fort que les moules Roquefort. Il s'appelait Olivier Pouls, et son poème était intitulé « Les mots ne viennent pas facilement ». Les mots ne viennent pas facilement, comment pourrais-je te faire comprendre que je t'aime ? Les mots ne viennent pas facilement à moi, c'est la seule manière que j'ai trouvée pour te dire que je t'aime. Olivier, 40 ans plus tard, vous assumez cet odieux plagiat, vous avez un message pour cette Fanny peut-être ?
Je me dis que peut-être Fer David s'est inspiré de mon poème pour écrire sa chanson.
Ah, vous attendez dans vos versets ? Ah, c'est beau, vous en sortez bien, effectivement. Stéphane, maintenant que vous connaissez Tupac ?
Maintenant, grâce à vous,
dans
je connais
les dîners,
Tupac. Bah, écoutez, oui, mais ça sert plus, il est mort. Alors, merci Mathieu, en tout cas pour votre récit, c'était vrai à 99%,
oui.
Il y a donc 1% de faux.
Oui, sauf quand j'ai dit que vous tiriez sur le cordon du concierge, je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais en tout cas...
Rien du tout.
C'était votre folle jeunesse gangsta.
Oui, voilà, exactement.
Europe 1, historiquement vôtre.